Le vendredi, je le disais, chronique Histoire des sciences. Alors tout ça se fait grâce au partenariat, à la collaboration tout à fait informelle que nous avons avec l'Université de Nantes, notamment le Centre François Viette, un laboratoire d'histoire des sciences. Il y en a très peu en France, donc on a un peu de la chance d'avoir cette structure ici, dans l'agglo. Voilà, des chercheurs accueillis, des chercheurs résidents, en tout cas des chercheurs qui nous parle de l'histoire des sciences, hein, comme chaque vendredi. Karine Gadré, avec laquelle on s'entretiendra via cette chronique, eh bien, elle n'est pas nantaise, elle vient du sud-ouest. Voilà, et elle nous parle, elle, de l'astronomie de l'Égypte ancienne. Et puis, en premier propos, elle nous parle d'un. Ça nous intéresse beaucoup, d'un site justement qui permet la diffusion de la culture scientifique. On écoute Karine Gadré, chronique Histoire des sciences. Karine Gadré, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes scientifique, vous êtes astronome de formation, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, je suis astronome au laboratoire d'astrophysique de Toulouse-Tarbes. Et en parallèle, j'ai créé une entreprise de diffusion de la culture scientifique, Culture DIF.
Alors vous préférez le terme de transmission au terme de vulgarisation scientifique, pourquoi?
Parce que la diffusion de la culture scientifique consiste à transmettre des notions, des concepts, dans un cadre historique. Alors qu'à mon sens, le terme vulgarisation est davantage utilisé pour transmettre les notions actuelles développées enfin, mises au point dans les labos de recherche, tout simplement.
Alors donc, votre action est visible sur Internet, sur un site, c'est bien ça?
Voilà, c'est le site culturedif.org, donc culturedif.org.
Sur ce site, on peut y trouver des réflexions, des articles, des travaux scientifiques divers?
Alors, ce site est constitué de plusieurs rubriques. Une rubrique Histoire des sciences, qui est constituée d'une dizaine de dossiers relatifs à l'histoire des sciences, que ce soit l'histoire de l'atome, de la radioactivité, l'histoire de l'écriture également. Il y a des dossiers relatifs à l'astronomie égyptienne, qui est mon domaine de recherche au laboratoire d'astrophysique de Toulouse-Tarbes. Donc, c'est l'astronomie en Égypte ancienne, ou archéo-astronomie égyptienne, comme on veut. Une troisième rubrique consiste en des logiciels d'astronomie inédits. En fait, ce sont des logiciels d'astronomie que j'ai mis au point au laboratoire d'astrophysique pour résoudre des problématiques archéo-astronomiques. Il y a d'autres rubriques, une rubrique conférence par exemple, où je présente des comptes rendus de conférences donnés par des chercheurs actuels d'aujourd'hui dans les laboratoires toulousains. Il y a une rubrique événementielle, bon, etc., quoi.
On en vient peut-être à l'astrologie en Égypte ancienne, oui.
Astronomie, si vous permettez.
Astronomie, pas astrologie.
Voilà.
L'astrologie, c'est plutôt voyance et
Et il
compagnie.
n'y a pas d'astrologie en Égypte ancienne.
D'accord. Donc l'astronomie
Voilà.
en Égypte ancienne, la recherche de ce point de vue-là en Égypte ancienne, elle remonte à quand?
Les premiers travaux en égyptologie, c'est ce que vous voulez dire, remontent à l'époque de Champollion, en fait, quand on a su déchiffrer la langue des Égyptiens, les hiéroglyphes, donc c'est vers 1822, on a commencé à pouvoir étudier les inscriptions qui figurent sur les monuments, sur les bas-reliefs, sur les papyrus égyptiens. Donc là commence l'étude de l'Égypte ancienne. Donc ça a moins de 2 siècles en fait.
Mais les travaux dans le domaine de l'astronomie remontent à plusieurs millénaires avant notre ère.
Alors en fait, l'Égypte ancienne elle-même, elle s'est constituée. Pardon, la civilisation égyptienne, elle s'est constituée sur les rives du Nil à partir de peuples qui eux-mêmes avaient une culture astronomique. On le montre à travers la découverte de mégalithes qui sont orientés en direction des positions du soleil levant, le jour de l'équinoxe de printemps ou d'automne, en direction de l'étoile Sirius ou des étoiles de la constellation d'Orion. Donc les Égyptiens ont emprunté à ces cultures leurs notions astronomiques, ils les ont intégrées à leur propre culture, les ont développées ensuite.
Mais à l'époque, il y avait un sens religieux à ces observations, à ces recherches, plus que un sens scientifique dans son acception actuelle.
Alors, la science telle qu'on la conçoit aujourd'hui, elle consiste en la formulation et en la vérification d'hypothèses. Les Égyptiens n'ont pas pratiqué la science telle qu'on la définit aujourd'hui. Ils ont observé le ciel, ils ont remarqué des cycles célestes, le cycle du soleil, ils en ont déduit le calendrier solaire de 365 jours. Ils ont remarqué des cycles planétaires. Ces observations, elles ont constitué la base, en fait, d'inscriptions qui figurent au plafond de temples et de tombes disséminées tout le long de la vallée du Nil. Ces observations, elles se confondent avec des notions mythologiques, notamment avec des références au mythe d'Osiris, qui constitue un mythe fondateur pour l'Égypte ancienne.
Quels étaient les outils d'observation à l'époque? On imagine qu'il n'y avait pas de satellite ni de télescope. Comment on s'y prenait justement pour observer le ciel? Une observation oculaire simplement?
Ah ouais, observation à l'œil nu. On a retrouvé récemment des traces de lentilles, mais il semble qu'elles aient été utilisées, donc des verres impolis. Il semble que ces verres aient été utilisés à des fins purement optiques, mais pas observationnelles, en tout cas pas dans un cadre astronomique, simplement pour améliorer le quotidien des gens. Donc ce dont on est sûr, c'est que les observations de la part des Égyptiens s'effectuaient à l'œil nu. Mais ils avaient mis au point quelques instruments très rudimentaires qui portent le nom de baie ou de merkette. Ça consiste en un fil à plomb, en un Y, qui permettent en fait de mesurer la hauteur d'une étoile au-dessus de l'horizon. Ils ont également conçu ce qu'on appelle une clepsydre, c'est une horloge à eau qui donne donc qui permet de mesurer le passage du temps au fil des heures, ou bien encore des gnomons.
Qui était chargé de ces observations? Est-ce que c'était vraiment une classe sociale particulière dans cette société de l'Égypte ancienne? Qui se mettait au travail?
Alors, comme toute société de l'époque, certains membres de la population avaient accès à l'écriture et à la lecture, d'autres non. Donc forcément, l'acquisition des connaissances demandait une transmission de connaissances. Donc seuls ceux qui avaient accès à la lecture et à l'écriture, dont les scribes et les membres du clergé, étaient aptes à saisir ces observations, à les lire et à les transmettre. Donc effectivement, il y avait certains membres du clergé, qu'on appelle des prêtres astronomes, qui effectuaient ces observations, les transmettaient et étaient chargés de les reproduire, enfin de les faire reproduire dans l'architecture égyptienne.
Les premières traces de ces travaux d'observation remontent à quand? Est-ce qu'on a pu les dater, le point de départ de ces observations?
Alors, pour ce qui concerne l'Égypte ancienne, hein, pas les petits peuples antérieurs dont à partir desquels l'Égypte s'est constituée, pour ce qui concerne la civilisation égyptienne, les premières traces d'astronomie observationnelle, elles sont d'essence architecturale. En fait, ce sont les pyramides d'Égypte dont on a constaté l'orientation en direction des points cardinaux.
Mais c'est quoi ces 2-3 millénaires avant notre ère?
Alors ça, c'est vers l'an, c'est entre l'an 2650 et l'an 2200 avant notre ère environ. Donc le fait que ces pyramides, que leurs faces soient orientées en direction des points cardinaux, montre la nécessité préalable d'avoir observé ces points cardinaux, donc d'avoir déterminé la direction du nord en l'occurrence. Et on pense que des travaux récents montrent que cette direction du nord a été déduite de l'observation d'une catégorie d'étoiles bien particulière.
Ces observations, elles sont fiables durablement puisqu'elles sont très anciennes et elles ont une solidité scientifique finalement avec des moyens d'observation qui étaient plutôt précaires. On est arrivé à finalement établir des principes ou des réalités scientifiques inaltérables.
Absolument. Bon, on remarque en fait, quand on fait quelques études astronomiques, la comparaison entre les peuples montre que ces peuples antiques, ces civilisations antiques, qu'il s'agisse de l'Égypte, de la Mésopotamie ou de la Chine, sont parvenus en fait à établir des concepts qui aujourd'hui sont considérés comme des concepts de base en astronomie, sont les concepts de périodicité, de classification et de référentiel. Alors, référentiel tout d'abord, les Égyptiens par exemple effectuent leurs observations par rapport à l'horizon. Donc ils ont défini leur propre référentiel, l'horizon et le zénith. Classification, ils ont scindé les objets célestes en plusieurs catégories, étoiles, planètes. Donc en fait ils ont constitué leur propre liste d'étoiles et de planètes, c'est un premier type de classification. Ensuite la périodicité, ils ont déduit des cycles du soleil ou de la lune, l'établissement de calendriers solaires et lunaires.
Il y avait des raisons très, très, très concrètes dans la vie quotidienne justement de faire ces observations. Est-ce que par exemple, dans ces sociétés qui étaient plutôt agricoles, est-ce qu'il y avait une utilité de mener ces observations? Ça apportait quoi finalement dans la vie quotidienne des paysans par exemple ou des citadins?
Alors les Égyptiens avaient une préoccupation, c'était la vie après la mort. Cette vie après la mort, elle est décrite par le mythe d'Osiris. Le mythe d'Osiris, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est un mythe fondateur pour la civilisation égyptienne, selon lequel, en fait, Osiris défunt, 70 jours après être décédé, serait réapparu à l'est du ciel sous la forme d'une étoile dans l'aube, dans les lueurs du soleil levant. Donc chaque pharaon, à l'image d'Osiris, souhaitait réapparaître 70 jours après son décès sous la forme d'une étoile, souhaitait devenir une étoile, et notamment une étoile circumpolaire, celle qui ne disparaît jamais sous le cercle de l'horizon, celles qui sont liées à l'éternité. Donc de la même façon, chacun des Égyptiens souhaitait accéder à cette éternité. Donc les références à l'astronomie, au cycle des étoiles et du soleil, sont relativement omniprésentes dans le mythe d'Osiris. Elles ont conditionné les observations astronomiques en Égypte ancienne.
Vous parliez de l'Égypte ancienne, de la Mésopotamie et de la Chine. Est-ce qu'il y a, du point de vue des périodes d'observation, une synchronicité? Est-ce qu'on a observé les mêmes choses au même moment dans ces trois zones du monde?
Alors, en Égypte et en Mésopotamie, enfin, l'Égypte et la Mésopotamie sont des grands centres de civilisation dont la latitude est relativement proche. En revanche, la Chine n'est pas située en un lieu de latitude équivalente. Donc forcément, les observations sont différentes. Mais on note le même intérêt pour des catégories d'objets bien particuliers. Par exemple, les Mésopotamiens, tout comme les Chinois, présentaient un intérêt particulier pour les éclipses de soleil et de lune, pour la conjonction de planètes, pour les rétrogradations planétaires. Ce n'est pas le cas, en revanche, pour les Égyptiens. Les Mésopotamiens ont constitué des listes d'étoiles sur des tablettes cunéiformes. De la même façon, les Égyptiens ont fait ça. Les Chinois aussi. Les Mésopotamiens effectuaient leurs observations par rapport au cercle de l'écliptique, donc que le Soleil parcourt en apparence autour de la Terre au cours de l'année. Les Chinois, eux, c'était par rapport à l'équateur céleste, qui est la perpendiculaire à l'axe nord-sud autour duquel notre planète est en rotation.
Et dans ces zones mésopotamiennes et chinoises, on a retrouvé les traces de ces observations sur les mêmes supports, c'est-à-dire les bâtiments comme en Égypte ancienne?
Alors, on a une grande chance en Égypte, c'est la préservation des bâtiments, effectivement, des monuments. Et encore, on estime qu'à ce jour, on ne connaît que 30% des vestiges qui datent de l'Égypte ancienne. Alors, on ne pense pas pouvoir découvrir les 70% restants en raison de la détérioration sous l'effet du temps, mais il y a encore pas mal de choses à découvrir. En Mésopotamie, on dispose d'un nombre de monuments qui est nettement plus restreint. En revanche, on a des tablettes d'argile sur lesquelles figurent des observations astronomiques. En Égypte, en revanche, les observations astronomiques, pour certaines d'entre elles, figurent sur des papyrus qui ne nous sont pas parvenus. Ils n'ont pas résisté au temps. Pour ce qui concerne la Chine, je ne pourrais pas vous en parler davantage parce que je ne connais pas assez bien la civilisation chinoise.
Vous vous rendez sur place en Égypte, par exemple, vous, pour étayer vos connaissances en vue de cette transmission dont vous nous parliez au début de cet entretien?
Alors, se rendre en Égypte pour prendre la température, pour essayer de se plonger dans l'esprit de l'Égypte ancienne en visitant des monuments, c'est une étape indispensable, en effet, pour effectuer des études archéo-astronomiques, en l'occurrence. Pour autant, aujourd'hui, grâce aux moyens modernes dont on dispose, comme Internet, ou tout simplement les collaborations entre chercheurs de différents labos, on n'a plus besoin de se rendre en Égypte pour effectuer ces études. Les bases de données archéologiques ou astronomiques dont on a besoin pour travailler sont disponibles sur le web ou à la simple demande, sur simple demande écrite auprès de nos collègues.
Il y a des choses dans le vocabulaire usuel, quand il fait chaud, on dit par exemple, oh là là, c'est la canicule. Alors je crois que c'est étymologiquement, ça remonte justement à des observations qui ont été menées du temps de l'Égypte ancienne. Canicule, il y a une étymologie égyptienne finalement.
Tout à fait. D'ailleurs, ce sont les Romains qui ont inventé ce terme qui s'appelle canicula, qui dérive de la constellation Canis Majoris, donc le grand chien. L'étoile la plus brillante de cette constellation, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, c'est Alpha Canis Majoris, qu'on connaît sous l'appellation de Sirius. Et lorsque Sirius a effectué son lever héliaque en Égypte ancienne, c'était vers la mi-juillet, peu avant la crue du Nil, Le climat était très aride à cette époque de l'année, il faisait très chaud, donc c'était une période caniculaire en fait, d'où effectivement le lien entre Sirius et Canis Majoris et le terme canicula.
Est-ce que vous, dans vos recherches, et là c'est peut-être un point de vue plus personnel, est-ce que vous avez été bluffé quelque part de la capacité des anciens, des Égyptiens, anciens en l'occurrence, à pouvoir observer le ciel et pouvoir en établir des principes encore établis jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que ça vous étonne?
Bluffé, non, pas par l'établissement des concepts, parce qu'on se rend compte qu'en fait, il s'agit vraiment d'une évolution de la société humaine dans son ensemble, parce que ces concepts ont tous été établis en même temps par les civilisations égyptiennes, mésopotamiennes et chinoises. Donc on se rend compte que c'est vraiment une évolution de pensée humaine, que ce mouvement, il était entamé, qu'il a eu lieu dans différents centres de population sur Terre à cette même époque, vers l'an 2000 avant notre ère. En revanche, bluffé par certaines réalisations architecturales, par exemple par l'orientation de la pyramide de Khéops. Son écart à l'alignement nord-sud est de 6 minutes d'arc seulement, ce qui est quand même prodigieux. C'est une précision qui est formidable. Aujourd'hui encore, il serait difficile de reproduire un tel degré de précision. Et ce n'est pas la seule pyramide, celle de Khéphren à Gizeh, juste à côté de celle de Khéops, donc, a un écart à l'alignement nord-sud qui est de 13 minutes d'arc seulement. Ça me bluffe, ouais. Qu'ils aient réussi à reproduire de la sorte... Un simple fait géographique, astronomique, c'est vraiment costaud.
Et c'est-à-dire qu'il disposait d'outils qu'on n'a pas retrouvés maintenant pour cette précision qui vous étonne donc?
Non, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait de mystère autour de ça. Simplement, ils ont certainement pris un grand soin, mis beaucoup de soin à établir ces alignements.
On retrouve des éléments de ces observations sur votre site?
Oui, tout à fait. Ouais. Ben, l'ensemble, il y a un dossier, par exemple, qui est consacré entièrement aux pyramides d'Égypte, donc à leur architecture interne et externe, à leur implantation géographique, à la question justement que pose leur orientation astronomique. Il y a d'autres dossiers abordés, par exemple l'orientation des temples d'Isis et Hathor à Dendera. Il y a aussi tout ce qui concerne, on n'a pas encore parlé au cours de l'interview, mais tout ce qui concerne les listes d'étoiles, les horloges stellaires qui ornent l'intérieur du couvercle de sarcophages ou bien encore les plafonds de temples et de tombes. Il y a 11 dossiers différents, 11 ou 12 dossiers différents à consulter.
On a quand même des traces tangibles et en bon état qui permettent de retracer cette histoire, de la reconstituer, de la reconstruire.
Alors, on a parlé des pyramides d'Égypte, donc de l'insertion dans l'architecture des notions astronomiques des anciens Égyptiens. Ça date donc en gros de 2500 avant notre ère, de l'époque 2000 avant notre ère, de cette époque historique-là, on trouve des vestiges qui sont davantage textuels et pariétaux. Autrement dit, on trouve une imagerie céleste, on trouve une écriture relative à l'astronomie. Donc on voit bien l'évolution du peuple qui passe, qui ancre tout d'abord ses connaissances dans l'architecture et qui ensuite les diffuse, les transmet, les inscrit sur des pierres, sur des papyrus, sur des bas-reliefs.
Ces connaissances, elles se sont propagées finalement pour étayer la culture, je dirais, universelle et mondiale. Ces connaissances, ces observations, on les connaît que depuis Champollion. Avant, c'était resté dans l'Égypte géographiquement.
Non, vous avez raison. Tout comme l'Égypte ancienne a bénéficié des observations des peuples antérieurs qui s'étaient constitués le long de la vallée du Nil, les Grecs, par exemple, ont bénéficié des observations des anciens Égyptiens et des Mésopotamiens. Sur la base de ces observations, les anciens Grecs ont bâti leur modèle mathématique d'univers. Ensuite, les connaissances grecques ont été transmises aux astronomes arabes, qui eux-mêmes, ensuite, au fil des conquêtes, ont fait la fusion entre les connaissances grecques et les connaissances indiennes, puisque l'empire arabe s'étendait de l'Inde jusqu'à l'Espagne, en fait, voire le sud de la France. Et ensuite, via l'Italie, les connaissances des astronomes arabes se sont transmises aux occidentaux, qui ont repris le flambeau.
Alors vous qui êtes sensible à la transmission scientifique, là c'est un exemple patent de transmission de civilisation en civilisation finalement.
Tout à fait, ouais. Mais c'est comme ça d'ailleurs que l'espèce humaine évolue, en acquérant des notions, en les diffusant, en les transmettant, comme toute espèce d'ailleurs.
Merci beaucoup Karine Gadré.
Avec plaisir, merci.